Radio Okapi.
Bienvenue à cette édition de Midi que vous présente Belinda Bossouma. Tout de suite, le sommaire. La ville de Kolwezi abrite depuis hier le premier forum sur les investissements miniers en Afrique. Au menu des discussions, les mines, le développement ainsi que la cohabitation entre les industriels et les communautés locales. Enrôlement des électeurs, pas d'engouement à Isangi dans la province de la Tchopo. En cause, la faible sensibilisation des électeurs, explique le chef de centre. Nord Kivu, il ne pleut pas sur Rutshuru et Masisi, voici 3 mois maintenant, situation qui entraîne une perturbation de la saison culturelle. Les paysans craignent déjà une crise alimentaire. Reportage à suivre dans la seconde partie de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de Kolwezi dans le Lualaba, où le premier forum minier sur les investissements miniers en Afrique, Indaba, a ouvert ses portes mardi. Plus de 150 personnes, dont des délégations de toutes les provinces de la RDC, de l'Afrique du Sud, du Botswana ainsi que de l'Angola, prennent part à ces assises. Au premier jour, les débats ont tourné autour des mines et le développement, ainsi que la cohabitation entre les industriels et les communautés locales. C'est le gouverneur des provinces, Richard Mouyege, qui a lancé les travaux en présence du conseiller spécial du chef de l'État chargé des mines et énergie, ainsi que l'ambassadeur du Canada, Nelly Kabena, pour le reportage.
Dès l'ouverture des travaux, le gouverneur a dénoncé l'attitude des entreprises minières face à la loi de la sous-traitance. Richard Mouyege-Manguez a parlé d'une situation amère parce qu'elle ne valorise pas l'entrepreneuriat local et par conséquent ne permet pas le développement des communautés où sont implantées les industries minières. Le Botswana a proposé aux participants congolais de ne pas exporter les minerais à l'état brut. Ce modèle qui a réussi au pays nécessite cependant un environnement des affaires qui est un élément clé dans la construction d'une industrie minière. Pour ce faire, le Botswana a commencé par des réformes au niveau étatique. Pour sa part, le directeur de Congolese Alternative Mining Indaba, Camille Ansigle, a indiqué que parmi les problèmes congolais, l'absence des sous-traitants est donc d'une classe moyenne. On note aussi une connaissance géologique sommaire, un déficit énergétique et aussi l'insuffisance des infrastructures logistiques et de transport. Ce sont près de 150 personnes, dont les industriels, les membres de la FEC, la société civile, les communautés abritant les sites miniers qui ont répondu à ce premier forum minier Indaba dans la ville de Kolwezi. De Lubumbashi, Nelly Kabena, Radio Okapi.
D'autres travaux qui se sont ouverts également ce mardi, c'est la 3e célébration de l'événement Saveur du Kivu, un événement privé et public aussi annuel pour la prospérité et le développement de l'industrie du café de spécialité en RDC. Les travaux ont été ouverts par le vice-ministre de l'Agriculture en présence des invités et investisseurs du secteur du café venus du monde entier. Mais quels sont les objectifs de cet événement à Bukavu? Quelle est la situation de la culture du café au sud Kivu? Réponse avec le directeur chef de secteur de l'Office national du café ONC Bukavu, l'ingénieur François Kambale, au micro d'Emmanuel Elamiji.
Saveur du Kivu, c'est une organisation qui regroupe les investisseurs du café avec les planteurs. C'est une manifestation qui réunit beaucoup d'investisseurs, les consommateurs étrangers qui viennent au pays chercher les cafés. Et les cafés, pas le moindre, les cafés de spécialité. Et c'est un plus pour la République démocratique du Congo de recevoir dans son pays les investisseurs qui veulent venir chercher les cafés congolais. Les cafés du site Kivu, c'est un café spécial. C'est un café cultivé au bord du lac Kivu. C'est un café cultivé sous les hautes terres et c'est un café qui offre le meilleur goût. D'ailleurs, nous avons été meilleurs dans le monde, messieurs les journalistes. Il y a la coopérative Sopakdi qui a exposé son café aux États-Unis. Il y a eu un concours là-bas. On a amené le café de partout dans le monde. C'est le café de Minova qui a été le meilleur dans le monde. Maintenant, nous, ONC, nous sommes en train de voir comment accompagner les producteurs pour qu'ils puissent désormais être à mesure de produire à grande quantité. Nous avons encore un problème de quantité, messieurs les journalistes, mais au moins nous devons nous les dire et fiers de les dire que nous avons aujourd'hui un café de meilleure qualité.
Pendant ce temps, les opérateurs économiques œuvrant dans le secteur pétrolier ont rencontré le ministre de l'Économie hier. Au menu, une nouvelle augmentation du prix du carburant. Le ministre de l'Économie nationale a demandé aux pétroliers de surseoir cette possibilité d'augmentation de prix le temps de soumettre la question au Conseil des ministres. Le ministre Joseph Kapika de l'Économie s'exprime au micro de Nadine Foulansimba.
Nous avons connu une augmentation du prix du carburant il y a quelques mois. Une autre devait intervenir dans les anciennes provinces du Bandundu, de l'Équateur et la province orientale. Le samedi, vous imaginez, nous étions investis jeudi. Et quand une lettre vous tombe pour dire on va augmenter le prix du carburant, vous voyez qu'elle est lourde de conséquences. C'est comme ça que nous avions écrit à la profession pour demander que nous nous retrouvions aujourd'hui et qu'ensemble nous puissions étudier les voies et moyens pour avancer. Nous avons terminé notre réunion en demandant à nos experts d'approfondir les dossiers. Nous avons reçu les propositions de la profession pétrolière. Nos experts vont se pencher là-dessus, nous faire rapport. À notre tour, nous avons une hiérarchie sur le Premier ministre. Quand nous aurons reçu les avis de la hiérarchie, alors nous allons de nouveau convoquer une réunion pour voir comment avancer.
Direction la province de la Tchopo. Pas d'engouement dans les 3 centres d'inscription de la CENI dans la cité d'Isangi. Les bureaux sont quasiment déserts. Le personnel de la CENI commis à ce centre se tourne pouce en attendant de recevoir un éventuel requérant. Mais qu'est-ce qui justifierait cet état de choses, Jacques Moukonkolé?
Au centre d'inscription Isangi 1, par exemple, un vieux policier assis juste à côté de l'entrée du bureau dans le périmètre de sécurité assure la garde. Aucune file d'attente ni de requérant potentiel dans ce périmètre. Comment expliquer le manque d'enthousiasme des électeurs potentiels à l'enrôlement? Le chef du centre Isangi 1, Joseph Bayaka, attribue cette situation à une faible sensibilisation des électeurs.
La population n'a pas été suffisamment informée. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas vraiment une masse déjà ici.
Du côté de la société civile d'Isangi, l'on estime que les difficultés techniques liées à cette opération d'enrôlement pourraient expliquer ce manque d'attrait des électeurs.
Si on ne tient pas compte de la qualité du personnel de la CENI, les gens qui n'ont pas la maîtrise de l'outil informatique, ça peut avoir un grand impact dans l'identification de l'enrôlement des électeurs.
Des allégations balayées par le chef d'antenne de la CENI Isangi, selon Emmanuel Lissembo, seule une sensibilisation tout azimut peut résoudre ce problème.
Mais c'est le problème des sensibilisations. C'est la sensibilisation doit se faire par toutes les couches.
Tel est aussi l'avis du secrétaire exécutif de la CENI Tchopo. Selon Mme Emeli Hahari-Sassi, la sensibilisation entamée par la CENI en amont doit se poursuivre par toutes les parties prenantes au processus électoral en aval. Des retours d'Isangi, Jacques Moukonkolé, Kisangani et Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, l'heure est à la formation sur le contentieux électoral en République démocratique du Congo, organisé par le projet de renforcement de l'observation citoyenne des élections au Congo, PROSEC en sigle, et financé par l'Union européenne. Ces assises de 2 jours sont destinées aux organisations de la société civile. Elles visent essentiellement à contribuer à la maîtrise de la procédure du contentieux électoral en espérant réduire les erreurs de l'inexpérience des acteurs impliqués dans les élections RDC. Écoutez à ce propos le chef d'équipe de PROSEC, André Kimbunda, dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
C'est justement pour mieux contribuer à l'efficacité, à l'effectivité de l'observation électorale citoyenne en RDC que le PROSEC organise cet atelier de formation sur le contentieux électoral. L'objectif général de cette formation est de doter les organisations bénéficiaires des outils et des compétences techniques pour observer, analyser et évaluer la fiabilité du contentieux électoral durant tous les cycles électoraux. Il s'agira spécifiquement de doter les participants de connaissances pertinentes et d'instruments avérés nécessaires pour comprendre et cerner les contours, les enjeux du contentieux dans le processus électoral, identifier à chaque phase du processus électoral les différents types de contestations, identifier la nature du contentieux, identifier les différents types de recours et l'autorité compétente à la matière et enfin comprendre comment est organisé le contentieux de manière générale, mais également comment sont organisés les différents types de contestations dans le cycle électoral.
Du côté de Kasaï Central, des officiers de la police et ceux de l'armée sont sensibilisés depuis ce matin sur la lutte contre les violences sexuelles. Cet atelier d'un jour est facilité par le bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme et tourne autour des plusieurs communications dont nous parle André Kambala.
Ces travaux ont été ouverts par le commandant de la 21e région militaire à côté de son collègue général Étienne Tabou de l'Académie militaire de Kananga. Pour le général Emmanuel Lombé, tous les participants ont l'obligation d'être assidus à ces enseignements en vue de lutter ensemble contre ces fléaux. Pour le coordonnateur du bureau conjoint des droits de l'homme à la MONUSCO Kananga, c'est une occasion de faire une évaluation de la situation en vue de savoir comment lutter ensemble contre ces fléaux. Henri Bertin.
Une femme est violée une fois. Lorsqu'elle est prise par force sous la contrainte, cette même femme est violée deux fois lorsque la justice ne lui rend pas justice. Le viol, j'apprendrai ça à personne, est un acte qui porte directement atteinte à la dignité de l'être humain. Les militaires comme les civils ont tous le droit à la dignité. Et la dignité, elle est la même pour le nouveau-né comme pour un adulte. Sans aucune discrimination, c'est la loi qui protège les agents de l'État, la population.
40 officiers, dont 20 de FARDC, 20 de la PNC, prennent part à cet atelier. De Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
Pendant ce temps, à Mbujimayi, il s'est tient depuis lundi les travaux de l'atelier d'installation du comité provincial de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette activité organisée par le gouvernement provincial du Kasaï oriental à travers le ministère du genre est appuyée par l'Union congolaise des femmes des médias, UCOFEM. Les membres du comité qui sera mis en place à l'issue de cet atelier le jeudi 25 mai prochain auront pour mission de faire une évaluation régulière de la mise en application des différentes recommandations de la résolution 1325 au Kasaï oriental. C'est ce qu'explique la directrice provinciale de l'UCOFEM dans cette province, Maggie Masanka, au micro de Chris Mkand.
Ils auront pour la première grande mission de pouvoir d'abord adopter un plan de travail annuel du comité provincial de la résolution 1325 afin d'impliquer tout le monde et pour que nous puissions arriver à améliorer la situation de la femme, la promotion de droits de la femme, l'implication de la femme au processus de paix. Il faut aussi que ces comités puissent avoir des stratégies pour renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre. Voilà pourquoi tous ces gens ont un travail capital à faire pour pouvoir amener la province du Kasaï oriental à réduire tant soit peu toutes sortes de violences faites à la femme, les violences basées sur le genre.
De retour à Kinshasa pour signaler que c'est depuis près d'une semaine que l'on observe chaque matin une foule des demandeurs des visas devant la maison Schengen sur l'avenue de Libération ex-24 novembre. Ces demandeurs des visas sont mécontents face aux conditions d'accueil qui leur sont réservées. Un reportage d'Étienne Kalema.
Ces demandeurs de visa attendent que la porte s'ouvre pour qu'ils entrent avec leur dossier. Cependant, ils n'ont pas accès à la salle depuis près d'une semaine pour certains. Seules une dizaine sont choisies pour accéder à cette salle. Une bousculade a été enregistrée ce mardi matin devant la porte d'entrée. Une situation qui indigne ces demandeurs.
Vous allez inviter 100 personnes alors que vous n'avez que 30 personnes à recevoir. Parce que nous demandons juste un visa. Si vous ne voulez pas nous l'accorder, vous dites non, vous ne l'accordez pas. Mais ne mettez pas les gens dans de très mauvaises conditions pour les décourager à voyager. Il y a des hommes d'affaires aussi qui font les affaires ici. Si Europe et vice-versa, il n'y a pas que les Congolais qui immigrent. Quand nous parlons, c'est parce que nous avons droit à la dignité humaine et tout Congolais en a droit. On ne doit pas nous traiter comme ça. C'est traiter les gens animalement. C'est inhumain. Que nos amis de Schengen puissent quand même prendre des dispositions pour respecter les Congolais. Nous n'allons pas tout chercher là-bas. Et aussi viennent chercher des choses ici.
Mais d'après un responsable de la maison Schengen qui a requis l'anonymat, cette situation fait suite à un problème technique qui subissent leurs machines ces derniers temps, ce qui ne leur permet pas de recevoir et traiter un grand nombre des dossiers. Ils assurent que leurs informaticiens sont en œuvre pour régulariser la situation.
Voyons à présent l'actualité en dehors des frontières congolaises.
Actualité Afrique Monde.
Et nous commençons par la Côte d'Ivoire. 4 ex-rebelles démobilisés ont été tués et au moins une quinzaine blessés hier lors de la dispersion de leurs attroupements par les forces de sécurité à Boaké. Cette deuxième ville du pays constitue un épicentre des mutineries des soldats. Le ministère de l'Intérieur a rejeté la responsabilité sur les démobilisés, affirmant que ces décès étaient dus à l'explosion d'une grenade dégoupillée par des manifestants.
L'Éthiopien Tedros Adhanom a été élu hier directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Il devient ainsi le premier Africain à prendre la tête de cette puissante agence de l'ONU qu'il a l'ambition de réformer. Ce spécialiste du paludisme, âgé de 52 ans, l'a emporté au troisième tour devant le Britannique David Nabarro, 67 ans, qui a été envoyé spécial des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. En Angleterre, trois hommes ont été arrêtés ce mercredi à Manchester en lien avec l'enquête sur l'attentat survenu pendant un concert dans la ville. L'annonce a été faite par la police. Un premier homme avait déjà été arrêté hier dans le sud de la ville, indique la même source. Le kamikaze de l'attentat de Manchester, qui a fait 22 morts et 59 blessés lundi, n'a probablement pas agi seul et était connu des services de renseignement, a révélé le gouvernement britannique. Et puis, aux Philippines, des combattants islamistes sémant le chaos dans une ville du sud du pays ont décapité un chef de la police locale. Le président philippin Rodrigo Duterte a indiqué ce mercredi que le chef de la police de Malabang a été stoppé alors qu'il rentrait chez lui à un point de contrôle opéré par des terroristes.